La métaphore du rail. Le corneau longe la rue à l'ombre des platanes. Errant sans but apparent, il laisse parfois une trace ou en renifle d'autres. « Va-t'en !» lui lance Jérémie, alors qu'il s'apprête à uriner sur le portail. Le geste virulent qui accompagne l'invective provoque un brusque écart du corneau. Le jeune homme sourit. Madame Sango ouvre ses volets. Elle les fait claquer sèchement, comme pour marquer sa détermination à bien démarrer la journée. Jérémie lève la tête. « Bonjour, Madame Sango. Beau temps pour les moineaux. »«
Tu l'as dit. Je vais en profiter pour fleurir la tombe de mon pauvre Jean. »
Main dans les poches, il prend la rue pavée, juste à droite, derrière chez lui, près du petit bois. Le chien suit, à distance respectable. Il lève parfois la truffe pour s'assurer de la présence de l'homme et, une fois le contrôle fait, poursuit la trace tête basse. Jérémie gravit la pente à grandes enjambées, presque en sautillant. Un autre rentemplant croise leur route. Corneau le chasse immédiatement d'un grognement. Le bâtiment, repeint à neuf, empeste l'essence de térébenthine. Dégoûté, Corneau rebrousse chemin. Il s'arrête un peu plus loin, observe l'homme et, devant la totale indifférence, s'éloigne en trottinant, tête haute. Tout est soigneusement entretenu. Les glaces propres sous lit, les vieux meubles de bois fleurent l'encaustique fraîche et le sol briqué, lui. Le détergent à la lavande couvre un peu la peinture entêtante. Jérémie traverse à grands pas le petit hall de gare. À trop grands pas. Son talon droit glisse, le gauche suit, le reste s'affale. Il demeure assis un moment, se masse un poignet, regarde de l'autre côté des rails et se relève. La voie ferrée est astiquée, désherbée, les interminables barres de fer, nettoyées soigneusement, brillent au soleil. Les bois poncés et cirés des traverses présentent bien. Leurs vénures énigmatiques sont mises en valeur. Jérémie s'enfonce dans le bois. Il va jusqu'à la clairière et s'y allonge, brin d'herbe en bouche. C'est un trou de verdure qu'il a trouvé, enfant, au temps des autres, avec la bande de Jacques Leroux et celle de Luc le Boutonneux. Les gendarmes et les voleurs, sans un mirage au loin, à narguer les cupides. La veuve Ménard étend son linge sur les cordes raides. De l'autre côté de la rue, à la terrasse d'Aimé, Pierre, Jules et Marcel se rincent les dents du fond. Ils observent les opérations avec insistance. Elle accroche une gaine rose de grande taille en soupirant. « Il y en a pour une bonne main d'homme !» lui lance Pierre en se frappant la cuisse. Les autres pouffent. « Fut un temps, t'aurais bien aimé que ce soit la tienne !» rétorque Juliette. Les autres s'étouffent. Pierre fait une vilaine grimace. Jérémie débouche à ce moment à l'angle de la rue des Tanneurs. Il s'avance à pas mou, plus indolent que tranquille. « Tiens, là le grand Bobia, observe Marcel. Il s'est toujours pas décidé. « Comme son père, à jamais vouloir comme tout le monde, » dit Aimé en remplissant les verres. « La rébellion, ça finit toujours au poteau, » assure Jules. Les hochements des autres achèvent la discussion. La secrétaire de mairie se bagarre avec l'index de sa main gauche. À l'aide d'un bâtonnet de bois, elle repousse la peau qui recouvre en partie sa lunule. Rien n'y fait. La peau trop élastique reprend sa place sitôt poussée. C'est pour mon extrait de naissance. Tu vois bien que je suis occupé. Jérémie regarde en l'air, exhale un grand soupir forcé et tapote sur le comptoir de bois avec ses ongles durs. Pourquoi faire ton extrait? Alimenter les conversations. Regarde, fait la secrétaire qui désigne le tableau d'honneur du chef. Maintenant tu es le seul. Tous les jeunes sont partis à la ville pour gagner leur croûte. Il n'en reste qu'un à traîner. Tu déshonores la famille. Il détaille la liste en prenant son temps, soulève les épaules, grimace. J'aime pas les villes, ma tante. Quant à la majorité, elle a peut-être toujours raison, mais elle se trompe en permanence. Pense à ta mère, Jérémie. Ma pauvre sœur a besoin d'un petit mandat pour l'aider. À ma connaissance, personne n'a encore reçu de mandat. Laisse-leur le temps de s'installer dans leur nouvelle vie. Réagis, au lieu de discutailler. Promis, ma tante, j'y pense. Tiens, voilà ton extrait. Il t'attend depuis hier, d'ailleurs. La valise, grande ouverte sur le lit, est déjà à moitié pleine. L'armoire à glace reflète les silhouettes de Jérémie et d'une femme en noir près de l'encoignure de la porte. Tu n'es pas obligé de partir. Nous nous en sortons très bien seuls. Je dois suivre le plus grand nombre. La vie est ainsi faite. Je pars demain. Tu peux le dire aux autres mamans.
Pourquoi ne pas suivre ce que tu crois bon pour toi, Jérémie?
Attends des nouvelles des autres. Il est peut-être trop tôt pour te décider.
J'en ai marre de supporter leur sarcasme. Je dois m'en aller, c'est mieux ainsi.
La dame en noir essuie une larme. Elle s'approche de la valise pour aider son fils à compléter le chargement. Tout le village, ce qu'il en reste, est réuni sur le quai. Le troisième et le quatrième âge en tenue d'apparat. Ceint de son écharpe tricolore, le maire se tient brioche en proue. Les perles de transpiration qui abondent sur son crâne dégarni et ses joues rebondies luisent au soleil. Il s'approche solennellement du micro. Les autres se taisent sagement, recueillis dans l'attente. L'édile, tribun d'un jour, se racle la gorge bruyamment.
« Mes chers amis, voici enfin, » il sourit finement à son épouse, « notre ultime départ. Il est des jours où nous devons prendre nos responsabilités, où, telle la cognée du bûcheron, il nous faut frapper fort. Jérémie est notre dernier enfant et avec lui, l'escadrille de l'espoir sera au complet. Je vois au loin leurs longues ailes tournoyer. Je les vois prêts à fondre sur nous pour nous combler. Bravo pour ton courage, Jérémie, et, au nom de tous, merci. »
Une salve d'applaudissements interrompt l'envolée. « Tu reviendras bientôt, » poursuit le maire réjoui. « Tu reviendras honorer ton village avec tes camarades qui, j'en suis persuadé, t'ont préparé le terrain, si je puis dire. »
« Ben, on les attend toujours, ces petits chérubins, » persifle la veuve Ménard.
« Ils reviendront tous, » insiste le magistrat en levant les bras au ciel. « Notre village sera sauvé, il deviendra moderne et prospère, » hurle-t-il. La foule entonne la Marseillaise. Jérémie embrasse sa tante et renifle une fois encore le parfum de la dame en noir. Déjà 2 heures que la catapulte a propulsé le wagonnet. Toujours rien à l'horizon. Seul le sifflement des roues métalliques sur les rails vient perturber l'ordinaire. Il se dresse, se dégourdit les jambes, s'appuie au rebord et scrute au loin, cheveux au vent, sans succès. L'attelage escalade péniblement une longue côte très pentue jusqu'à rouler au pas. Il franchit avec peine les derniers décimètres, puis plonge d'un coup vers le bas.
« Ah ! » s'exclame-t-il tout haut, « te voilà enfin !»
L'immense mégalopole s'étale en dessous sur des dizaines de kilomètres. Surpris, Jérémie siffle.
Eh bien, je comprends mieux. J'avais tort de m'inquiéter. Après tout, la vie doit être sympa, puisque tout le monde y va.
La forte dénivellation donne de la vitesse au chariot. Une dernière butte ralentit un peu l'ensemble, mais la pente suivante plonge encore plus abruptement. Son visage présente quelques signes d'inquiétude. De plus en plus vite et de plus en plus près, l'absence de rail droit devant. Quelques petites secondes et, comme un toboggan, le tronçon final. Le wagonnet s'évanouit sous lui pour en rejoindre des dizaines en contrebas. Jérémie vole, comme un avion sans aile, vers le mur. Des taches de couleur amarantes, une odeur pestilentielle. Tous y sont, fixés pour l'éternité. Il reste une pointe d'acier pour accueillir Jérémie et quelques spectateurs en tribune pour applaudir.